Vous êtes sur RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
Il est 8h23, merci d'écouter RTL. Les négociations sur le Brexit ont donc repris cette semaine à Londres et sont dans leur dernière ligne droite. Le scénario le plus redouté serait une sortie du Royaume-Uni sans accord le 31 décembre prochain. Bonjour Bénédicte.
Bonjour.
C'est une question pour notre brigade de l'actualité. Mmh. Dites-nous donc, Bénédicte, y a-t-il oui ou non un début de deal ou no deal en vue?
Alors, si je vous dis que les négociations s'accélèrent, allez-vous encore me croire?
Je ne sais pas.
Depuis 4 ans, Michel Barnier est à Londres depuis le week-end dernier. Il a été rejoint par une proche collaboratrice d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, veut une réponse demain, dit-on. Bruxelles serait même prêt à lâcher davantage des concessions au-delà de ce qui a été accepté par les 27 pays de l'Union européenne. La France a aussitôt réagi hier soir, refusant un accord dégradé. Mais de toute façon, vous savez, le maître des horloges, c'est Boris Johnson. C'est lui qui va décider du calendrier.
En attendant, Londres, du coup, se prépare au no deal.
Oui, après les parkings géants, le Royaume-Uni annonce la mise en place d'un centre d'opération qui sera ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour fournir toutes les informations nécessaires, fluidifier le passage en douane des camions pour éviter ces files d'attente pour le transport des marchandises. Parce que si aucun accord n'est trouvé, oui, ce sont donc les règles de l'Organisation mondiale du commerce qui vont s'appliquer. Donc, des droits de douane et des contrôles phytosanitaires pour les produits agricoles, par exemple.
Donc, Bénédicte, les négociations bloquent avant tout dans le plus gros dossier, celui de la concurrence dite équitable.
Ah, ça, c'est le principal. C'est le point le plus chronophage pour les négociateurs. Faire en sorte que le Royaume-Uni respecte, par exemple, les normes d'émission des voitures. Ou alors, toujours pour les automobiles, que les constructeurs outre-Manche n'utilisent pas le trioxyde de chrome pour leurs métaux. C'est un produit chimique encadré chez nous. Il faut que nous ayons les mêmes standards.
Mais le sujet de crispation extrême, c'est celui de la pêche.
Oui, parce que le 1er janvier au matin, Boris Johnson n'a qu'une idée en tête. Se faire prendre en photo en train de taper dans le dos des marins britanniques et dire qu'il a gagné, parce que c'est le seul secteur où il peut sortir vainqueur du Brexit. La pêche, ce n'est que 0,1% du produit intérieur brut britannique. Mais Londres a donc décidé de ne rien lâcher. Boris Johnson réclame toujours le contrôle total des eaux britanniques. Si on allait jusqu'au bout, ça serait par exemple la fin du port de Lorient. Bruxelles, de son côté, se dit prêt à concéder 15 à 18% de ses quotas. Proposition rejetée, vous le savez, par Downing Street.
Très impressionnant. Merci Bénédicte Tassard pour vos réponses. Et justement, vous évoquiez cette peur des pêcheurs français de ne plus pouvoir accéder aux eaux britanniques qui foisonnent pourtant de poissons. C'est une véritable inquiétude qui plane pour nos pêcheurs et nous sommes allés à leur rencontre. Bonjour Nicolas Burnand.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Et bien justement, pour RTL, vous êtes rendu à Boulogne-sur-Mer, premier port de pêche français, et vous avez embarqué pour 24 heures en mer sur un filayeur.
Oui, cette nuit-là, le Laurent Geoffrey navigue dans le détroit de la Manche en direction de l'Angleterre. L'obscurité est totale, la houle est forte, la mer agitée.
Alors, on vient de passer le DST, dispositif de séparation de trafic. Nous, on appelle ça l'autoroute de la mer, quoi.
À la barre, Laurent, le capitaine, traverse l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde, entre les paquebots et les porte-containers. La radio est en liaison constante avec le centre opérationnel de surveillance.
C'était justement un bateau de commerce qui n'arrêtait pas de nous donner des coups de projecteur parce qu'il pensait qu'on le gênait. Alors je me suis mis en relation avec Grinet pour qu'il gère un peu la situation. C'est là tous les commerces ils font cap au nord et nous pour aller sur nos lieux de pêche on fait cap à l'ouest, donc on les croise complètement quoi, donc il faut faire très attention.
Un crucifix et une photo de son fils sont accrochés sur le tableau de bord. Sur l'écran du GPS, le bateau poursuit sa route près d'une heure et demie à pleine vitesse.
On vient juste de rentrer dans les eaux anglaises. En fait c'est une frontière, mais bon, en mer on le voit pas la frontière. Bah, en fait on est plus souvent dans les eaux anglaises parce que c'est un peu plus poissonneux que les eaux françaises. Nous en face de Boulogne, à 20 000 autour, il n'y a plus un poisson.
L'embarcation ralentit, de gros projecteurs s'allument sur le toit, balayent la surface de l'eau.
Bah, je vais essayer de poser 2-3 filets pour essayer de pêcher un peu de cabillaud, un peu de perlon.
Sur le pont, un moteur remonte des kilomètres de filet. Au bout, 3 matelots récupèrent le poisson.
Alors, il y a une grosse région l'eau.
Le travail est périlleux et rintant. Il faut s'accrocher pour ne pas tomber. L'odeur du gasoil est omniprésente. Elvis, 27 ans, est le plus jeune de l'équipage.
En train de nettoyer les filets, enlever tout ce qu'il y a dedans. Crabe, araignée, le poisson. Je ne sais même pas si on aura 10 kilos de sol.
C'est beaucoup d'efforts parfois pour pas beaucoup de poissons.
C'est ça. Alors, on fait des grandes journées pour pas grand-chose. Faut l'aimer ce boulot-là pour le faire. Tous les heures, c'est physique, les conditions climatiques.
Et il y a surtout le problème du Brexit. Si le Royaume-Uni et l'Union européenne ne trouvent pas d'accord sur le partage des eaux territoriales, cela serait une catastrophe pour Laurent, le patron.
80% de mon année est dans les eaux anglaises. On se dit que dans un mois, on va peut-être plus pouvoir travailler comme on veut. On se demande comment on va pouvoir faire. Mais on va récupérer les Belges sous les chalutiers français. Ça va être impossible à travailler. Du coup, c'est même pas la peine. Batou, il a déjà 24 ans. Il vaut plus grand-chose. Là, j'ai embarqué à 16 ans. J'ai 41 ans. J'ai fait que ça. Donc si j'arrête, que faire ? Je sais rien faire d'autre que d'aller à la mer.
Alors à Boulogne-sur-Mer, la filière de la pêche représente près de 5000 emplois. Forcément, la perspective d'un Brexit sans accord inquiète, Nicolas.
Oui, sur le pont des chalutiers et des filayeurs, on est marin-pêcheur de génération en génération et les matelots n'ont pas forcément d'autres formations. Cyril fait une pause de quelques minutes, il boit un café, fume une cigarette. À 36 ans, il a déjà passé plus de la moitié de sa vie en mer, 50 heures par semaine.
Mon père était marin-pêcheur déjà, pour ça c'est toute famille. Pour nous ça doit être dur, hein. Deux enfants, là, pour nourrir ma famille. Quoi. Si on a du travail, on fera payer par les tubes et tout. Ça va faire 21 ans que je fais ça, je n'aurais pu faire autre chose. Je suis matelot, moi, c'est tout.
Le salaire ne dépasse pas 2000 euros brut par mois. Parfois variable, il peut dépendre du produit de la vente de la pêche. À 58 ans, Jean-Louis pourrait déjà être à la retraite. Il ne décolère pas contre les dirigeants de l'Union européenne.
Ils font des lois, mais ils ne connaissent pas le métier. C'est des bureaucrates, comme j'appelle ça. Il faut venir sur le terrain pour voir ce que c'est le métier. S'il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de paix, on ne nous donne rien.
Vous demandez juste de continuer à travailler.
Faire notre travail, puisqu'on ne nous embête pas.
Au petit matin, la mer se calme enfin. Pour rester frais, les poissons sont vidés sur place avant d'être stockés. Le bateau revient enfin au port de Boulogne-sur-Mer.
Avancez pour rester accosté là, hein ?
Les caisses sont déchargées, une à une sur le quai. Il y a encore quelques années, Laurent s'imaginait remettre son bateau à son fils comme son père l'a fait avant lui. Fatigué par le métier, il n'en est plus certain aujourd'hui.
Ça ferait trop mal au cœur d'arrêter ce métier-là. Mais bon, après, si on ne gagne plus rien pour le boulot que c'est, je veux dire, le mal que c'est. Quand je vois mon père qui a fait la même chose que moi, il y a pratiquement 47 ans, il a fait un arrêt cardiaque avec les heures, les machins. Tu ne feras pas ce que ton père a fait, quoi. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donner ça à mon fils, quoi. Je vais être malade pour lui, ça sert à rien.
Suspendu aux négociations sur le Brexit, les pêcheurs de Boulogne-sur-Mer retourneront cette nuit au large en espérant pouvoir continuer leur activité l'année prochaine.
Reportage impressionnant et émouvant. Merci beaucoup Nicolas Burnand pour cette illustration concrète des conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.